Donc 2 Samuel 7, les versets 1 à 17. Lorsqu'il fut installé dans son palais et que l'Éternel lui donnait du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit au prophète Nathan : Vois donc, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi : Vas-y, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va annoncer à mon serviteur David. Voici ce que dit l'Éternel. Est-ce à toi de me construire une maison pour que j'y habite ? En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai voyagé sous une tente, dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les Israélites, ai-je une seule fois dit à l'une des tribus d'Israël que j'avais désignée pour diriger mon peuple, Israël ? Pourquoi ne me construisez-vous pas une maison en cèdre ? Annonce maintenant à mon serviteur David. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accompagné partout où tu as marché. J'ai éliminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme par le passé, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu sauras coucher avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains. Mais je ne lui retirerai pas ma grâce, comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. » Nathan rapporta toutes ces paroles et toute cette vision à David.
Nous sommes le deuxième dimanche de l'Avent, et dimanche dernier, on a vu une première promesse qui se trouve tout au début de la Bible, Genèse 3,15, qui annonce une descendance qui écrasera la tête du serpent. Promesse traverse toute la Bible et on en trouve des échos jusque dans le livre de l'Apocalypse. C'est ainsi qu'est annoncée la victoire de Jésus contre le diable. Ce soir, c'est une autre promesse que nous allons méditer. Vous l'avez entendu au verset 16. « Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. » Ton trône sera affermi pour toujours. Pour comprendre la promesse de ce soir, il va falloir comprendre un jeu de mots. Il y a un jeu de mots dans ce passage. À l'occasion d'une pastorale qui a lieu chaque année, je me souviens m'y être rendu avec des collègues, et l'un d'entre eux, qui n'était pas de langue maternelle française, a fait ce commentaire. À cette pastorale, il y a souvent des blagues, des jeux de mots qui sont faits. Et le commentaire qu'il a fait, c'est que je vais encore devoir rire à des blagues que je ne comprends pas. Vous l'imaginez en train de rire, alors que malheureusement, le pauvre ne comprenait pas le jeu de mots qui avait été fait. Et j'imagine en réfléchissant qu'on a tous été déjà dans ce cas-là. Quelqu'un fait un jeu de mots, on ne comprend pas, et soit parce qu'on n'a pas envie de le montrer, et c'est ce que vous faites souvent avec moi, merci Marie de le rappeler. Soit on ne veut pas le montrer, soit on ne veut tout simplement pas gâcher le plaisir à la personne qui vient de faire le jeu de mots. Mais ici, ce n'est pas une blague, et il va falloir comprendre le jeu de mots, parce que tout est dans le jeu de mots, justement. Un mot revient 15 fois dans le texte que nous avons entendu, il est traduit ici par « maison », un peu plus loin par « famille ». Parfois, il signifie « maison » dans le sens d'une construction, d'un temple, et parfois il signifie maison dans le sens de dynastie, de lignée royale. de famille. Et pour parcourir ce texte, alors on va aller un peu plus loin que la lecture de tout à l'heure. Et un petit bonus, c'est peut-être une mauvaise ou une bonne nouvelle, mais ça sera moins long sur la dernière partie, juste la réaction de David à ce qui lui est annoncé. Dans les versets 1 à 17, une maison pour qui ? Et ensuite une bénédiction pour qui ? Comme dit, ça sera davantage sur cette partie que nous avons lue. Et ensuite, une petite réponse. Une maison pour qui d'abord ? J'ai vécu pendant une année à Chingford, à l'est de Londres. Et en me baladant, j'ai trouvé cette stèle dans la forêt d'Épinay. C'est sur ce lieu que Laurence d'Arabie avait projeté de construire une maison. Laurence d'Arabie, c'est une figure importante de la Première Guerre mondiale, dont on célèbre le centenaire de l'armistice. C'est lui qui a encouragé les tribus arabes à se révolter contre l'Empire ottoman. À la fin de cette Première Guerre mondiale, il rentre en Angleterre comme un héros. Et une des choses qu'il projette, entre autres, c'est le projet d'une construction d'une maison sur ce terrain à Chingford. Dans une correspondance à sujet à un ami, il dit vouloir acquérir un certain mérite. Il faut probablement lire de l'ironie, d'une part parce que la construction ne se fera jamais, et ensuite, est-ce que c'était vraiment en faisant cette construction qu'il a acquérir un mérite ? Il a simplement construit une cabane qui n'a pas résisté avec le temps. Mais la fin de la guerre, en gros, c'est l'occasion pour lui de penser à d'autres projets, de réfléchir dans ce temps de paix à d'autres projets, projets d'une construction. Ben, c'est un peu pareil ici avec David. Le roi David, il faut retourner à l'an 1000 avant Jésus-Christ, et David arrive à un temps de paix après des combats successifs, des guerres remportées. Et dans ce temps de paix, il se met à réfléchir à d'autres projets. Et là aussi, c'est le projet d'une construction qui lui vient à l'esprit. Il en parle avec le prophète Nathan. « Voici donc, j'habite dans une maison de cèdre, en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. » Il fait référence au tabernacle qui avait été construit du temps de Moïse. Il n'est pas à l'aise avec le fait de vivre dans un palais bien construit, alors que l'arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu, et sous une tente, une tente de toile. La réaction de Nathan, elle aura probablement été la nôtre. Vas-y, vas-y, ça paraît être un bon projet, après tout. C'est pour honorer Dieu qu'il veut faire cela. Vas-y. Et pourtant, cette nuit-là, Nathan reçoit une révélation, une vision de la part de Dieu, et il devra en apporter le contenu à David. Et la question qui va surprendre David, est la suivante. Est-ce à toi ? Est-ce à toi de me construire une maison pour que j'y habite ? Sa perspective semblait juste, mais Dieu va renverser les choses. Dieu commence par rappeler l'histoire de cette nation dans laquelle il est roi. C'est lui qui a pris l'initiative de les libérer de l'esclavage en Égypte. C'est lui qui a été présent parmi eux, qui a choisi d'habiter parmi son peuple dans ce tabernacle. Et il pose la question, est-ce qu'il a exprimé de la frustration ? Par rapport au fait d'être dans ce tabernacle ? La réponse sous-entendue, c'est non. Et ce qui est vrai pour l'histoire de la nation est aussi vrai pour David. C'est Dieu qui a été à l'initiative pour choisir David alors qu'il n'était qu'un berger, le petit dernier de la famille, inconsidéré, et qui en a fait un roi. C'est lui qui lui a rendu victorieux, c'est lui qui lui permet de vivre ce temps de repos. Ce n'est donc pas David qui va bâtir une maison pour Dieu, c'est Dieu qui va bâtir une maison pour David. C'est là que se trouve le jeu de mots. Maison dans le sens de construction, dans la tête de David, maison dans le sens de dynastie, dans la perspective de Dieu, une lignée royale. Et pourquoi ce renversement ? Est-ce que Dieu est susceptible en quelque sorte ? Il n'aime pas être dans la position de celui qui reçoit ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est ça, le fait de ne pas apprécier ? On le voit à bien des endroits dans la Bible, Dieu s'attend à une consécration généreuse de la part de son peuple, de ceux qui lui appartiennent. Il s'y attend. Donc ce n'est pas ça. Alors pourquoi ce renversement ? Pour mieux comprendre, ce sera utile de considérer un peu le contexte de l'époque. Dans la littérature ancienne, on trouve plusieurs exemples de temples construits pour un dieu en reconnaissance pour un bienfait. Pour n'en mentionner que quelques-uns, le roi d'Ur, qui va construire un temple pour le dieu Enlil, le roi de Mari construit un temple pour le dieu Shamash. Des siècles plus tard en Égypte, c'est le cas pour le pharaon Toutmosis III, le dieu pour Amon-Ré. Toujours en Égypte, Amenhotep III, qui bâtit pour Amon-Ré. En Assyrie, Assaradon, un temple pour Ashur. Succession de rois qui construisent un temple pour leur dieu. Et le schéma est souvent le même. Il est chaque fois le même. Une faveur accordée par le dieu en question. Et un temple construit en l'honneur de ce dieu. Des faveurs futures en réponse à la construction du temple. En gros, à chaque fois, pour assurer les faveurs du dieu en question, on lui construit un temple. Et à ceux qui verraient dans ce schéma quelque chose de primitif, de dépassé, n'est-ce pas souvent ce qu'on voit dans le monde du travail, dans l'économie, en politique? On fait une faveur à quelqu'un et on attend un retour de manivelle. On fait quelque chose en vue d'une augmentation ou en vue d'obtenir un meilleur poste et on s'attend, dans ce donnant-donnant, à continuellement recevoir et s'assurer un meilleur avenir. Les motivations, elles peuvent être plus ou moins entachées. On peut estimer qu'il y a parfois des services rendus qui sont pertinents et utiles. Et ce n'est pas nécessairement en étant complètement désintéressé de l'avenir qu'il faut les voir. Sauf qu'ici, Dieu refuse d'entrer dans ce schéma-là. Il refuse d'entrer dans ce donnant-donnant. Ce n'est pas David qui va lui construire un temple, une maison. C'est Dieu qui va lui construire une maison. L'initiative vient de Dieu, et à chaque étape, c'est un peu ça qu'il souligne, c'était vrai tout au début, ce sera vrai ici encore. Et si c'est vrai pour le peuple de Dieu, si c'est vrai pour David, c'est aussi vrai pour nous. C'est aussi vrai pour nous. Quelle que soit notre étape de vie, quelles que soient les circonstances que l'on vive actuellement, on ne va pas pouvoir vivre comme si à un moment ou un autre, on va faire quelque chose en faveur de Dieu en estimant qu'il va faire de son côté quelque chose envers nous. Comme si on prenait cette initiative de notre côté. Tout au long de notre vie, il va falloir constamment faire le constat que c'est Dieu qui a été à l'initiative de tout bienfait. Dans sa lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul pose une petite question qui doit remettre en question ses auditeurs et j'espère qu'elle nous remet en question. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Naturellement, on a tendance à regarder notre trajectoire et peut-être dans des temps de paix, d'apaisement, eh bien, on considère cette trajectoire professionnelle ou sur le plan des études ou peut-être sur le plan des relations en estimant que oui, Dieu a été bon, mais on a fait notre part, non? Et avec une certaine satisfaction, on y regarde. Ou alors, dans les temps de crise, on y regarde en se disant, il y a quand même ça, j'ai quand même réussi à faire ça. Mais la question doit nous être posée. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Est-ce qu'on a mérité de naître dans tel contexte, dans tel environnement, de bénéficier de telles études? David est donc invité à reconnaître la grâce de Dieu, du début jusqu'à la fin, en continu, à chaque étape. Et quand il s'agit de l'avenir, ce qui va l'affermir, ce qui va l'encourager, c'est de nouveau la promesse de Dieu. Dans les versets 12 et 13, Dieu évoque un successeur, le Fils, qui régnera à sa place. On n'a pas encore son nom ici, mais on sait par la suite qu'il s'agit de Salomon. David est bien placé pour savoir qu'un règne peut partir, peut mal tourner en quelque sorte. Après tout, la royauté, elle a été retirée à Saül, son prédécesseur. Elle pourrait lui être retirée à son fils, mais c'est là que la promesse de Dieu intervient. Dieu promet de traiter Salomon comme un fils et de ne pas le rejeter. Il le corrigera lorsqu'il se détournera, lorsque c'est nécessaire, mais il ne le rejettera pas. La promesse va encore plus loin au verset 16. « Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. » Est-ce que vous avez déjà lu les livres de chroniques et de rois dans l'Ancien Testament? Si vous l'avez fait, vous avez vu une courbe. La norme, à chaque fois, c'est David. Les références sont toujours faites à David. Mais comment décrire cette courbe? Ben, elle est descendante. Il y a quelques soubresauts ici et là, mais la courbe est descendante. On voit tel ou tel roi qui n'a pas été comme David, qui n'a pas été à la hauteur de sa vocation. Personne n'est vraiment à la hauteur. Et la question se pose, est-ce que la promesse de Dieu est fiable? En particulier quand on arrivera au moment de l'exil et qu'il n'y aura plus de roi à Jérusalem, est-ce que la promesse de Dieu, elle va demeurer? On l'a déjà vu dimanche dernier avec le terme « descendance ». La descendance, c'est un terme qui permet à la fois de décrire une lignée entière, une communauté, mais il est utilisé aussi pour décrire un descendant en particulier. Au moment de ce temps d'arrêt, lors de l'exil, la promesse n'est pas annulée. Parce que ce descendant de la lignée de David, les auteurs du Nouveau Testament l'ont bien reconnu en la personne de Jésus. Au tout début de l'évangile de Matthieu, qui démarre le Nouveau Testament, on voit dans sa généalogie que Matthieu le fait remonter jusqu'à David. Et il veut montrer que c'est bien à Bethléem, dans la ville de David, qu'est né Jésus. Il est bien de la lignée de David. Est-ce que Matthieu surinterprète? Ben non. Pierre, à la Pentecôte, va faire un discours et il va faire ce lien entre la promesse faite à David et Jésus qui est ce roi. Si David est mort, ce roi pour toujours, c'est bien Jésus qui vient de ressusciter. Il est vivant, c'est un roi vivant et vivant pour toujours. L'apôtre Paul avancera la même chose au début de sa lettre aux Romains. Jésus, le Christ ressuscité, c'est lui le descendant de David qui règnera pour toujours. Et c'est ce qui est magnifique, je trouve, dans ce texte, c'est aussi de voir que l'accomplissement a plusieurs dimensions. Il a plusieurs dimensions. On a parlé de jeu de mots avec le terme maison. Imaginons un autre jeu de mots. Au terme de la rencontre, alors que vous voulez venir au repas de tout à l'heure, vous croisez quelqu'un dans le couloir et qui vous dit « Excusez-moi, je cherche une pièce ». Qu'est-ce que vous allez vous dire? Mais de quelle pièce est-ce qu'il parle? Une pièce de monnaie ou une pièce, une salle? Est-ce qu'il cherche la salle bleue ou une autre salle? Il pourrait peut-être préciser, la personne pourrait peut-être préciser, mais c'est un peu la même idée. Il va falloir se déterminer si c'est une pièce de monnaie ou une salle. Ce n'est pas du tout la même chose. Je cherche une pièce de monnaie ou je cherche une salle. Ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est un peu le cas ici, sauf que les deux trajectoires se rejoignent dans la même personne. Que ce soit lorsqu'on parle d'un temple ou lorsqu'on parle d'un roi, les deux trajectoires vont se rencontrer à la personne de Jésus. Prenez l'évangile de Jean. Quel est son objectif? Alors ceux qui sont de la rencontre découverte, là, ils devraient rentrer en mode automatique et pouvoir dire l'objectif de Jean. Grand silence, je vais le donner de nouveau, c'est probablement l'intimidité. Mais l'objectif de Jean, c'est que l'on puisse croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, on ait la vie en son nom. Autrement dit, il veut démontrer que Jésus est bien le Messie qui était promis dans l'Ancien Testament, le Messie, le roi attendu. Mais comment est-ce qu'il commence son évangile? Mais entre autres, en montrant que Jésus est en même temps la présence même de Dieu. Il est Dieu. Quand Jean nous le présente, il utilise cette expression, la parole, en faisant référence à Jésus, s'est faite chair et a habité parmi nous. Littéralement, il a planté sa tente parmi nous. La parole a planté sa tente parmi nous. Référence au tabernacle. Et au chapitre 2, quand Jésus se trouve dans le temple et qu'on lui demande de faire un signe, quel signe propose-t-il? Détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai. Sur les moments, les disciples ne comprennent pas, mais Jean fait ce petit commentaire. Après la résurrection, ils ont bien compris que Jésus faisait référence à son propre corps. Il ressuscitera le troisième jour. C'est bien lui le temple de Dieu. C'est lui la présence même de Dieu. C'est là que l'on rencontre Dieu en la personne de Jésus, le parfait tabernacle, le parfait temple. C'est lui. Il est à la croisée de plusieurs trajectoires. Il est la descendance annoncée dans Genèse 3:15. Il est le descendant de David qui règnera pour toujours. Il est le véritable temple, Dieu parmi les humains, l'homme-Dieu. Et cette royauté, elle doit être assurante, non seulement pour un David, non seulement pour sa nation à l'époque, ça devrait être assurant pour nous. Quelles que soient les circonstances que nous vivons sur un plan personnel ou sur un plan large, les événements que nous vivons ici en France, ça doit nous rassurer profondément de savoir que Christ règne pour toujours. On en trouve d'ailleurs des échos dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, comme pour la descendance. Les chrétiens peuvent vivre les pires persécutions, les pires souffrances sont évoquées dans le livre de l'Apocalypse. Et pourtant, quel est le message de l'Apocalypse ? Christ règne. Il règne sur l'histoire et c'est lui qui aura le dernier mot. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le roi qui règne. C'est lui qui est sur le trône. Et même dans les souffrances les plus intenses, les persécutions les plus grandes, c'est lui qui règne encore et toujours et qui établira son règne pour toujours. Quelle est la réaction de David ? Une bénédiction pour qui, plus rapidement ? On sent David ému, bouleversé à ce qu'il entend. Verset 18, « Qui suis-je, Seigneur éternel ? Et qui est ? Et qu'est-ce que ma famille pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis ?» Vous connaissez ce chant qu'on chante de temps à autre à la RDS, « Béni Dieu, ô mon âme, magnifie son saint nom, tu te révèles et tu dévoiles à nos yeux 10 000 raisons pour louer notre Dieu. » Une manière d'utiliser le mot bénir, c'est précisément pour pouvoir dire tout ce que Dieu est, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait et qui mérite louange et adoration. C'est s'émerveiller de ce que Dieu est, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Et ici, David bénit Dieu, s'émerveille de ce que Dieu lui a révélé. Il bénit Dieu pour ce qu'il a fait dans sa vie, et on n'a pas le temps de le lire, mais il bénit Dieu aussi pour ce que Dieu a fait dans la vie de son peuple. C'est intéressant de noter juste l'ordre ici. Souvenez que lorsque Dieu s'est révélé à Nathan, il a d'abord parlé de sa grâce envers la nation, et il parle ensuite de la grâce envers David. Et bien ici, l'ordre est inversé. Dans sa prière de reconnaissance, il commence par lui-même, et il dit ensuite le bienfait pour la nation. Et quel est le pivot ? Quel est le cœur ? Eh bien, c'est précisément cette promesse de Dieu. Comme une onde de choc qui va avoir un impact, à la fois pour David, mais pour toute la nation, et même, on peut dire, le monde entier, tout commence avec cette promesse d'un roi qui régnera pour toujours. On trouve cette louange dans les versets 18 à 24. Et si on repense aux circonstances de David, il aurait pu se focaliser simplement sur ses succès militaires ou politiques et avoir une certaine satisfaction. Mais là, il est dans la louange. Au départ, j'ai parlé de Laurence d'Arabie, figure de héros durant la Première Guerre mondiale. Après cette Première Guerre mondiale, il va venir par exemple pour une conférence ici à Paris en 1919, conférence sur la paix. Il retourne en Angleterre, il va rédiger un livre qui sera un succès littéraire, les 7 piliers de la sagesse. Mais dans une correspondance à cet ami que j'ai mentionné tout à l'heure, il écrit la chose suivante. Le succès final et son aspect creux au front arabe me poussent à réfléchir ce qui serait un désastre. Le succès final et son aspect creux au front arabe me pousse à réfléchir ce qui serait un désastre. On sent une grande lucidité chez lui. Il est vu comme le héros, il est célébré comme le héros, mais lui-même reconnaît qu'il y a un aspect creux à ce qui s'est passé, que les promesses d'ailleurs qu'il a transmise au peuple arabe dans cette révolte n'aurait jamais été tenue. Et d'y réfléchir même, c'est un désastre, ça le déprime. Il faut une bonne dose de lucidité. Et dans un sens, David lui aussi a fait ses erreurs, lui aussi il a commis de graves erreurs. Mais ce qui lui donne de la joie ici, ce qui lui permet d'envisager sereinement l'avenir, c'est précisément cette promesse de Dieu. Malgré le fait que c'est un homme indigne, il est bénéficiaire de cette promesse. Quel regard est-ce qu'on va porter sur sa vie ? Peut-être vous êtes plutôt de tendance nostalgique ou un peu déprimé en pensant à certaines choses du passé, des projets qui n'ont pas abouti. Malgré les succès apparents, vous êtes en train de voir l'aspect sombre de tel ou tel moment dans votre parcours. Ou à l'inverse, vous êtes très satisfait de vous-même en vous disant « mais j'ai quand même réussi à faire ça, j'ai quand même réussi à faire ça. Et là encore, j'ai réussi dans ce domaine-là. » Et s'il y avait une troisième voie ici, dans l'émerveillement, dans les promesses de Dieu, dans sa grâce manifestée dans notre vie, et d'un règne que Christ exerce sur l'histoire. C'est à ça que David veut s'attacher, cette promesse-là. Et notez que la bénédiction est renversée. Il bénissait Dieu en quelque sorte par sa louange. Au verset 25 à 29, c'est lui qui va rappeler cette promesse de Dieu comme une bénédiction. Vous lisez au verset 29, « Veuille donc bénir la famille de ton serviteur, afin qu'elle subsiste éternellement devant toi. En effet, c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et c'est grâce à ta bénédiction que la maison de ton serviteur sera bénie pour l'éternité. » C'est une chose de bénir Dieu, de lui exprimer sa louange, sa reconnaissance. Ce à quoi on veut s'attacher, ce à quoi on veut tenir et méditer, c'est la bénédiction de ses promesses. De ce côté-ci, de la venue de Jésus, à quelle bénédiction est-ce qu'on veut s'attacher ? Qu'est-ce qu'on va méditer pour trouver à la fois le contentement, la paix, le repos, l'espérance ? Je vous invite à tout simplement écouter, ou si vous voulez lire cette longue prière de l'apôtre Paul au début de la lettre d'Éphésiens. Une longue phrase qui commence au verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3 et suivant. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ, en lui. Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. » En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. Écoutez ce projet. Pour le mettre à exécution, lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir tout réunir, sous l'autorité du Messie. Aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen.